de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Président Joko Widodo s'assure que l'optimisme des commerçants augmente en 2023. Malaisie renforce la surveillance COVID des visiteurs de tous les pays. Birmanie va libérer plus de 7000 prisonniers à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance. Rangée de technologies exposées au CES 2023. Armée de l'air indonésienne a la tradition d'accueillir les avions Falcon 7X et 8X. Aceh accepte de former un groupe de travail pour les réfugiés d'outre-mer. Et Singapour domine les visites de touristes étrangers dans l'archipel de Riau. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président Joko Widodo a passé en revue les activités commerciales à Pasar Bawah dans la ville de Pekanbaru pour s'assurer que l'optimisme des commerçants pourrait continuer à augmenter en 2023. Le président Joko Widodo, dans sa déclaration à Pekanbaru, mercredi, a déclaré qu'après la révocation du PPKM, les commerçants espéraient un meilleur chiffre d'affaires. Masria, une commerçante à Pasar Bawah, s'est dit fière car la province de Riau a été la première province visitée par le président Joko Widodo en 2023. Le ministre de secrétaire d'État Pratikno, le ministre de PUPR Basuki Hadi Muljono, le ministre du BUMN Erick Thohir ont accompagné le président lors de la visite et gouverneur de Riau, Shamsuar. Le premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que la surveillance pour anticiper la propagation de COVID-19 avait été renforcée pour les visiteurs de tous les pays, en particulier ceux qui avaient le plus de cas d'infection. À la presse, à Putrajaya mercredi, Anwar a déclaré que pour sauver le peuple de Malaisie, toute personne qui entre dans le pays doit être surveillée et soumise aux mêmes conditions. Anwar a également déclaré que si vous regardez l'enquête mondiale, les problèmes rencontrés sont plus complets. Il a déclaré que les questions de tourisme et de croissance économique ne doivent pas occulter l'importance de contrôler et de traiter les personnes en termes d'épidémie et d'infection, y compris la COVID-19. Anwar a poursuivi que les pays avec un nombre élevé d'infections, dont les États-Unis et la Chine, étaient sérieusement surveillés, sans relâcher les conditions. La junte militaire de la Birmanie va libérer plus de 7000 prisonniers pour marquer le jour de l'indépendance du pays d'Asie du Sud-Est. Selon un rapport du site d'information Myanmar Now, la déclaration de la junte a annoncé mercredi qu'elle libérerait un total de 7012 prisonniers à travers le pays pour apaiser les esprits, tenir compte des circonstances social et commémorer le jour de l'indépendance du pays. À la junte, les détenus dans des cas présumés de terrorisme, d'utilisation d'engins explosifs, d'associations illégales, de corruption, de meurtre et de drogue ne sont pas inclus dans l'exemption. Le Myanmar, anciennement connu sous le nom de Birmanie, célèbre le jour de l'indépendance tous les 4 janvier, le jour où le pays à majorité bouddhiste a déclaré son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948. Des rapports indiquent que de nombreuses personnes ont été libérées, y compris l'ancien ministre de la Religion du Parti de la Ligue nationale pour la démocratie, NLD, Tura Aunko. Le Consumer Electronic Show, CES 2023, le plus grand salon technologie au monde, débutera cette semaine à Las Vegas, aux États-Unis. Selon le Consumer Technology Association, CTA, en tant qu'organisatrice du CES, l'exposition qui s'est tenue du 5 au 8 janvier a réuni plus de 3100 participants de 170 pays et régions. Le CES est connu depuis longtemps comme un lieu où les entreprises peuvent présenter la technologie de la télévision, TV, les ordinateurs portables, les smartphones et d'autres nouveaux produits. Il y a plusieurs tendances émergentes qui mérite qu'on s'y attarde au CES de cette année. Les véhicules électriques EV seront à nouveau la catégorie principale au CES. En plus d'annoncer de nouveaux véhicules, les exposants dévoileront des innovations liées à la connectivité, à l'utilisation accrue, à l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour des fonctionnalités telles que la technologie de conduite autonome. L'armée de l'air indonésienne a tenu une tradition d'accueil des jets d'assaut des types Falcon 7X et Falcon 8X de France au hangar du 17e escadron aérien à l'aérodrome de Halim Perdana Kusuma, Jakarta, mercredi. Le maréchal de l'armée nationale indonésienne, Fajar Prasetyo, chef d'état-major de l'armée de l'air indonésienne, a déclaré que la tradition d'accueil était une prière de l'armée de l'air indonésienne pour que les pilotes et l'équipage des avions Falcon 7X et 8X reçoivent sécurité dans l'exposition des deux avions. La tradition d'accueil des avions Falcon 7X et 8X comprend un certain nombre d'activités, telles que prière ensemble, intégrer le logo du 17e escadron aérien sur les deux avions, casser des cruches et arroser d'eau florale. Fajar a ajouté que les avions Falcon 7X et 8X étaient exploités pour soutenir le commandement et le contrôle de la direction de l'armée nationale indonésienne, de l'armée de l'air et même d'autres institutions, de l'État, dans l'exercice des fonctions de l'État. À la même occasion, il a exprimé sa gratitude au président Joko Widodo qui a approuvé l'ajout du principal système d'armes modernes pour armée de l'air indonésienne. Selon lui, la présence des deux avions est l'un des efforts visant à faire de l'armée de l'air indonésienne une force aérienne respecte dans la région. Un certain nombre de parties prenantes à Aceh ont convenu de la création d'un groupe de travail pour s'occuper des réfugiés étrangers, car la province la plus à l'ouest de l'Indonésie est souvent visitée par des réfugiés, dont l'un est de l'ethnie birmane Rohingya. Le président de la commission 1 de l'Assemblée régionale d'Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaki, à Banda Aceh, l'a fait savoir mercredi lors d'une réunion de travail de la commission 1 de la DPRA concernant l'enquête sur l'arrivée de réfugiés Rohingyas à Aceh, à Banda Aceh. La réunion au bâtiment DPRA a réuni divers éléments tels que des représentants du gouvernement d'Aceh, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de coordination pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité, de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, ainsi que les gouvernements des districts ou villes accueillant des réfugiés Rohingyas. Iskandar a indiqué que le groupe de travail était nécessaire pour que la gestion des réfugiés Rohingyas à Aceh, tous les secteurs traverseront d'Aceh ont jusqu'à présent continué à faciliter la présence de l'ethnie Rohingya dans un certain délai, car la prochaine fois ils seront gérés par la HCR et l'OIM. Le nombre de visites de touristes étrangers dans l'archipel de Riau est dominé par des touristes de Singapour, dont l'un est dû à la distance rapproche entre les deux régions. Le gouverneur de l'archipel de Riau, Ansar Ahmad, cité en Tara mercredi, a expliqué que Singapour est voisine des îles Riau. L'accès de Singapour à Batam et à l'île de Bintan, Tanjung Pinang, et Bintan est ample, ce qui facilite la visite de la région. Sur la base des données de l'Agence centrale de statistiques BPS, 103 940 touristes étrangers ont visité les îles Riau en novembre 2022. Parmi ceux-ci, dominés par les touristes étrangers de Singapour avec 60 806 visites. Le chef par intérim de l'Office du tourisme des îles Riau, Lucky Zaiman Prawira, a déclaré que les îles Riau avaient diverses attractions, dont l'une était le tourisme maritime, comme les plages, les sports nautiques, la pêche et les visites culinaires, des fruits de mer transformés ainsi que des visites de shopping à un certain nombre, des centres commerciaux à Batam et des supermarchés à Tanjung Pinang. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, C'est Zeritak, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « Le gouverneur des Orientales, Mme Khofifa Indra Parkawansa, propose l'exploitation de porang et de nid de rondelles vers la Chine ». Le gouverneur des Orientales, Khofifa Indra Parkawansa, a offert l'exploitation de porang et de nid de rondelles lors de la visite du consul général chinois Su Yong au bâtiment Grady à Surabaya, mardi le 3 décembre dernier. Après la rencontre avec Su Yong, la gouverneure Khofifa a déclaré aux journalistes qu'elle espérait que les Java, en particulier les agriculteurs de porang et les nids de rondelles, pourraient obtenir l'accès au marché en Chine. Elle a également expliqué que porang est l'une des sources alimentaires à faible teneur en glucides et en calories, ainsi que sans protéines. Khofifa espérait que le consul général de Chine pourrait inviter les investisseurs à voir directement les usines ou à investir dans la création d'usines dans l'est de Java dans le but d'élargir le potentiel du marché des agriculteurs de porang. Un autre produit proposé par l'est de Java était les nids de rondelles. Elle a mentionné que 30% des nids de rondelles de la production totale provenaient de l'est de Java. Avec cette énorme quantité de production, elle pensait que la marchandise des nids de rondelles à Java orientale pourrait répondre aux besoins couramment consommés par les tout-petits en Chine. La gouverneure Khofifa a également proposé divers programmes de collaboration dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la culture, du tourisme et de la pêche. Selon les données, le nombre d'investissements de la Chine dans l'est de Java de 2010 au troisième trimestre de 2022 était 361 projets d'une valeur d'investissement de 368,67 millions de dollars américains. Les plus grands secteurs d'activité sont le commerce et la réparation, les aliments, l'industrie métallurgique de base, les produits métalliques, à l'exception des machines et équipements. Pendant ce temps, le consul général Su Yong, qui vient de servir pendant un mois dans l'est de Java, s'est dit optimiste sur le fait que la coopération entre la Chine et l'est de Java continuera à augmenter à l'avenir. C'est Jodita, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. C'est Jodita, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 5 janvier 1933, le début de la construction du pont Golden Gate. La construction du pont de Golden Gate le long de la baie de San Francisco a commencé le 5 janvier 1933. C'est un pont suspendu le long de Golden Gate, une ouverture de l'océan Pacifique à la baie de San Francisco aux États-Unis. Ce pont relie la ville de San Francisco en Californie sur la péninsule de San Francisco et le comté de Macon en Californie. Ensuite, la longueur totale du pont est de 2727 mètres. La distance entre les tours est de 1280 mètres et la hauteur est de 230 mètres au-dessous du niveau de l'eau. Passons maintenant à l'événement du 5 janvier 1948, l'un des fondateurs d'agence de presse Antara, AMC Pahutar, décède. Albert Manumpak Sipahutar est un journaliste indonésien et l'un des figures fondatrices de l'agence de presse nationale Antara. L'homme qui est né à Tarutung, Tapanuli du Nord, Sumatra du Nord, était déjà le dirigeant de deux journaux, à savoir Sinar Marhaen et Zaman Kita à l'âge de 20 ans avant de cofonder Antara. Sipahutar est décédé le 5 janvier 1948 à l'âge de 33 ans des suites d'une maladie pulmonaire. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la création du corps féminin de la marine Kowal. Cela a commencé par une nouvelle qui a été diffusée dans toutes les universités indonésies au sujet de la création et de l'annonce de l'acceptation des membres de Kowal. Pas moins de 12 personnes qui ont passé le test d'admission pour les membres de Koal ont été sélectionnées avec succès et ont réussi à devenir membres de Koal. Ce premier lot était connu sous le nom de Nuoyu Koal, qui a été nommé membre du Koal par le chef d'état-major de la marine indonésienne, le contre-amiral R.E. Martadinata, au chambre du quartier général de la marine de Jakarta, le 5 janvier 1963. Enfin, la date de l'inauguration était fixée comme l'anniversaire de Koal et est toujours commémorée jusqu'à aujourd'hui. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est PLN utilise 2 tonnes de déchets de la centrale à vapeur PLTU pour les infrastructures publiques. La compagnie d'électricité publique PLN Persero Société Anonyme affirme avoir géré 2,06 tonnes de déchets de combustion de charbon ou appelé cendre volante mâche fer ou FABA d'une centrale électrique à vapeur PLTU pour devenir la matière première des infrastructures publiques en Indonésie. Le président directeur de PLN, Darmawan Prasojo, dans un communiqué publié samedi 31 décembre à Jakarta, a déclaré que l'utilisation du charbon résiduel provenant de la combustion de PLTU est un catalyseur pour faire tourner les rouages de l'économie des personnes qui vivent autour de la centrale électrique. Selon lui, le FABA est transformé en matière première pour la construction de routes, de ponts, de pavages pour prévenir les inondations et des têtes capotes pour résister à l'abrasion. Dermawan a déclaré que le FABA avait créé une nouvelle roue économique communautaire et était devenue une nouvelle zone touristique qui attirait des touristes, de sorte que l'économie bougeait et que les femmes étaient impliquées dans la gestion du tourisme. Depuis 2019, l'utilisation des déchets de combustion de charbon de PLTU augmente chaque année. Jusqu'en novembre 2022, PLN a enregistré avoir utilisé 2,06 millions de tonnes de FABA, en hausse de 134,6% par rapport à la fin cumulée de 2021, qui avait atteint 878 000 tonnes. Le montant FABA a été obtenu à partir de 47 unités de PLTU réparties dans diverses régions d'Indonésie. Sur ce montant, PLN a construit 19,36 km de route en béton, 314 038 pour la stabilisation des terres, 157 logements, 1,8 million de pavages en briques, 300 MPME et 600 tétrapodes. Il a été déclaré que toutes les centrales électriques PLN sont devenues l'épicentre des améliorations environnementales, sociales et du bien-être communautaire. Pour que la présence du générateur de PLN soit non seulement une source d'électricité, mais aussi capable de faire bouger les rouages de l'économie dans la société. Il a ajouté que le FABA pourrait être largement utilisé par le public, les MPME et les agences. En effet, FABA est inclus dans la catégorie des déchets qui ne contiennent pas de matières dangereuses et toxiques. PLN ouvre également des opportunités aux personnes qui souhaitent utiliser FABA pour devenir des produits de grande valeur, notamment en tant que mélange dans le secteur de l'industrie des constructions et des infrastructures. Selon Dermawan, cet effort est un engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, ou ESG, dans la création d'un développement économique durable. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali tenang. Oh,
siapa menebak-nebak siapa dalangnya.
kita sudahi.
Sudahi saja.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs en visite au musée Subak à Tabanan samedi 31 décembre, le ministre du Tourisme et de la Communicative Sandiaga Salahuddin Uno a apprécié l'existence du musée à Tabanan, Bali. Ce musée est une attraction touristique éducative, en particulier sur Subak lui-même. Subak est le système d'irrigation des rizières utilisé à Bali. Auparavant, il a reçu la reconnaissance de l'UNESCO en tant que patrimoine culturel mondial. Le musée est l'une des destinations intéressantes de Bali. Il est situé dans le village de Banjaranyar, la résidence de Tabanan, Bali. La distance de la ville de Denpasar est d'environ 21 km ou environ 47 minutes en véhicule à moteur. Si vous voulez y aller, vous devez payer un droit d'entrée de 5 000 rupiah pour les enfants et de 10 000 rupiah pour les adultes. La création du musée Subak a été initiée par I. Gusti Ketut Kaler le 17 août 1975, qui a eu l'idée de préserver les institutions traditionnelles Subak en tant que patrimoine culturel de la nation. Cette idée a été concrétisée sous la forme du patrimoine culturel du musée Subak, qui a ensuite été nommé le musée Subak. Le musée Subak a été inauguré par le gouverneur de Bali, le professeur Dr. Bagus Mantra, le 13 octobre 1981. Lorsque vous visitez le musée Subak, vous pouvez apprendre le concept de la vie balinaise. Pour les Balinais, les techniques agricoles Subak ont une signification profonde, même cela est lié à la conception de la philosophie de vie. Ils connaissent le concept de vie Triitakarana, qui est adopté à partir du portrait d'une philosophie de vie hindoue. Ici, les humains apprennent à toujours s'intégrer à trois aspects, à savoir les autres êtres humains, la nature et Dieu. Tous ces aspects sont interconnectés les uns aux autres et ils ont une influence majeure sur les êtres humains. Le musée Subak se compose d'un complexe sacré avec Padmasana ou salle de prière et autres. L'espace et la disposition de ces bâtiments ont été adaptés aux bâtiments environnants. Il y a un bâtiment principal composé de deux bâtiments, à savoir le bâtiment administratif et l'exposition permanente. Dans l'exposition, il y a des objets qui ont des valeurs culturelles et artistiques, des informations et des illustrations. Ils sont présentés sous forme de panneaux et de maquettes, comme le processus de préparation de la terre jusqu'à ce que le riz soit comestible. Le musée Subak possède de nombreuses collections. Certains d'entre eux sont des outils agricoles. De plus, il y a un bâtiment audiovisuel où vous pouvez regarder des documentaires sur Subak. Le musée Subak a un mini Subak comme visualisation du système d'irrigation Subak. Il est utilisé comme une démonstration des activités Subak, de l'irrigation au processus d'activités agricoles dans les rizières. Ces auditeurs, c'est notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi? Ku tak tahu. Saat kau pulang kembali, pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Lukaku bukanlah kuncimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Et cette fois, nous allons vous présenter le circuit All-in-One en tant que centre d'activité touristique et d'économie créative dans la région de Jembrana, Bali. Le circuit All-in-One dans la région de Jembrana, Bali en tant que centre d'activité touristique et d'économie créative qui inclut les arts et la culture. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative, Monsieur Sandiaga Salahuddin Uno, a inauguré le circuit All-in-One à Jembrana, Bali, qui est le centre d'activité touristique et d'économie créative de la région. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative, lors de l'inauguration du circuit le 30 décembre 2022, a apprécié la présence du circuit All-in-One qui devrait être un soutien à la relance du secteur du tourisme et de l'économie créative à Jembrana, notamment à l'ouest de Bali. Ce circuit deviendra le centre des activités touristiques et d'économie créative couvrant les arts et la culture ainsi que l'économie créative dans la région de Jembrana, detail ke makepung, jugok, se gamelan ang bambu, le compétition de cerf-volant ainsi que les traditions et diverses autres communautés. Le circuit all-in-one se trouve dans le village de Pengambengan, Jembrana. Ce circuit offre de magnifiques couchers du soleil et une large étendue de plage. Construit depuis juillet 2022, le circuit est enfin terminé. La région de Jembrana, M. Inanga Tamba, a déclaré que ce circuit pourrait officiellement être utilisé par toute la communauté pour diverses activités. Il espère qu'avec ce circuit, Jembrana Bali deviendra une zone touristique à Bali. L'inauguration du circuit All-in-One a été très animée, qui comprenait la danse de Makepung, la danse de Mas Bhakti Marga et l'attraction Makepung. C'est la course de buffle. Le circuit All-in-One est le lieu principal de l'événement Makepung. Les courses de buffle sont généralement organisées par les agriculteurs pour exprimer leur joie sur la récolte du riz. L'activité de Makepung ou la course de buffle est présentée différemment sur le circuit All-in-One du village de Pengambengan, Jembrana, Bali. En effet, le batteur qui contient généralement de petites épines n'est plus utilisé. Maintenant, les jockeys remplacent la bosse par un fouet pour que le buffle ne saigne plus. Le coordinateur de Makepung de la région de Jembrana, Imade Mara, a déclaré que la nouvelle sensation de Makepung sans bosse devrait attirer les touristes, parce que les touristes peuvent regarder les courses de buffle sans crainte, car les buffles ne saignent plus. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku setulus hatiku dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta.
mata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde. Avec moi, Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Bob Tutupoli intitulée « Oui, du riz ». Bob William Tutupoli, ou Bob Tutupoli, a reçu le prix assez souvent tout au long de sa carrière. En 1978, avec Grace Simone, Bob Tutupoli a été choisi pour représenter l'Indonésie dans l'échange d'artistes de l'ASEAN. Après cela, il est devenu le premier lauréat du Festival de la chanson populaire en 1980. et a présenté Indonésie au Festival international au Budokan Hall au Japon. En Indonésie, Bob Tutupoli s'est fait connaître depuis qu'a chanté la chanson Widuri, la chanson composée par Slamet Adriadi et sortie en 1977. Sept musiciens indonésiens qui ont réarrangé la chanson Widuri, comme Yunisara et Delon, la chanson Widuri raconte l'histoire d'un homme qui adore une belle fille, s'appelle Widuri. Bon, ce soir, voici Bob Tutupoli va chanter une chanson intitulée Widuri. Bonne écoute!
Suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri. Tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan, setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widuri, elok bagai rembulan, oh sayang. Widuri, indah bagai akan menyayangi. Sayangku, karena mulai senja bersedih, pada dirimu kulihat keindahan yang sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia. de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.